France Musique.
Bonjour à tous, bonjour Émilie.
Bonjour Rodolphe, au programme d'En Piste aujourd'hui, une héroïque de Beethoven et un concerto pour violon de Britten.
Et peut-être que vous êtes en train de vous lever en nous écoutant. Et on commence cette émission par un ensemble britannique de musique baroque qui nous invite, comme son nom l'indique, au temps de Louis XIV. Il s'agit de l'ensemble Molière et un disque intitulé « Une journée dans la vie de Louis XIV en musique ».
Décidément.
On en a reçu plein ces derniers temps.
Mais surtout, on vit vraiment la vie de Louis XIV.
Alors, on se lève avec ce que l'on vient d'entendre, « Les arts florissants » de Charpentier. Ensuite, on écoute un peu de Lully pour le lever du soleil. Puis bientôt va venir l'heure du souper. Ce sera
Vous avez loupé, vous êtes allé du soleil, tout de suite, c'est le coucher de soleil.
J'accélère un peu par Michel Richard de Lalande. Alors tout ceci peut paraître anecdotique, mais ce programme témoigne du faste de l'époque, de la diversité des compositeurs, tous au service de sa majesté. Alors d'une musique qui n'a pas forcément d'ailleurs la liberté qu'elle prétend. Et cet ensemble britannique se consacre qu'à la musique française. Ils avaient fait un disque qui s'intitulait Pygmalion et ici ça s'appelle The King Playlist. Et nous sommes en fait finalement dans les écouteurs ou sur la plateforme digitale du Roi Soleil. Alors au moins c'est bien parce qu'il n'y a pas de concurrence avec lui, Spotify, Qobuz, Apple ou Deezer, ça n'existe pas. C'est Soleil je pense sa plateforme. Donc voici ce qui en est avec les symphonies pour le souper du roi. C'est la musique de Michel Richard de Lalande. Thank you. Les symphonies pour le souper du roi, Michel Richard de Lalande, de l'ensemble Molière qu'on a découvert ici.
Ivan Fischer poursuit son intégrale, les symphonies de Beethoven. C'est vraiment une intégrale au long cours parce qu'il ne veut pas enregistrer ses œuvres n'importe comment. D'abord, il veut les jouer en concert. Ensuite, il veut partir en tournée avec ses pièces. Et après, il décide de rentrer en studio. Donc, ça ne se fait pas en deux jours. Il a commencé en 2008.
Ah.
Et ce n'est pas fini. On a déjà entendu les symphonies 1, 4, 5, 6, 7. Voici aujourd'hui la célèbre troisième, l'héroïque. Et Ivan Fischer écrit un très beau texte dans le livret sur cette œuvre, notamment son dernier mouvement. La musique du dernier mouvement, écrit-il, nous emmène en un voyage empli de couleurs douces et de sentiments harmonieux. Il semble que le but de notre héros était un monde paisible et que tous ses combats et luttes visaient à un bonheur serein. Et puisse le monde suivre la vision de Beethoven et puisse tous les conflits conduire à la douceur et à l'harmonie. J'aimerais que tous les dirigeants du monde écoutent l'héroïque de Beethoven et s'inspirent de sa sagesse. Voici un message pour la paix que nous offre donc Ivan Fischer en musique avec cette troisième symphonie de Beethoven. Et voici donc le dernier mouvement avec l'orchestre du Festival de Budapest. Thank you. La troisième symphonie de Beethoven, l'orchestre du Festival de Budapest dirigé par Ivan Fischer, qui poursuit donc cette intégrale commencée en 2008. Ivan Fischer, immense chef qu'on apprécie énormément avec cet orchestre et qui a fait aussi beaucoup pour un autre musicien, c'est Brahms. Et l'année dernière est sorti un coffret, vous vous souvenez, avec les symphonies, les ouvertures, variations sur un thème de Haydn et puis quelques danses hongroises. Alors un petit rappel avec cette 14e danse hongroise. La 14e danse hongroise de Brahms, l'orchestre du Festival de Budapest et Ivan Fischer. Et l'actualité, c'est la 3e de Beethoven.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Alors nous allons maintenant écouter un duo de piano, et qui nous dit que contrairement à un grand nombre de duos frères et sœurs ou de couples qui se sont connus au cours de leurs études, nous avons commencé, nous disent-ils, à former une équipe mari et femme alors que nous avions déjà des carrières individuelles, un peu comme nous.
Ah, c'est ça.
Et ils ont découvert, figurez-vous, une fois qu'ils vivaient en couple, les joies du piano à quatre mains.
Je crois que vous avez découvert le piano.
Ou la vie de couple.
Oui, c'est ça.
Alors eux, ce sont Gulru Enzari et Herbert Schur. Nous, on connaît plus Herbert Schur
oui,
que sa femme.
Oui, qu'on aime particulièrement.
Absolument,
comme pianiste.
Qui fait une belle... Tous les deux, ils font une belle carrière en Allemagne et ils enregistrent leur premier disque pour le label Naïve avec un magnifique programme. Alors, je ne veux pas commenter le clip promotionnel de ce disque où l'on voit Madame toute de blanc vêtue dansant devant la tombe de Robert Schumann et Monsieur au regard admiratif avec un esprit printanier et bucolique. Je vous invite à aller voir le clip.
Je sais que vous ne vouliez pas le commenter, mais vous l'avez un peu commenté.
Je l'ai décrit.
Oui,
j'ai pas dit ce que j'en pensais.
D'accord.
On retiendra plutôt le titre de ce projet Éternité et un programme passionnant qui va de Schumann à Messiaen en passant par Brahms. Les variations sur un thème de Schumann, c'est la musique de Johannes Brahms et c'est le piano duo Ensari Schur. Pas évident à dire,
non,
Ensari Schur. Gulru Ensari et Herbert Schur. Très beau disque et c'est notre disque du jour sur France Musique. Vous pouvez le réécouter et le podcaster.
Un mouvement de la suite pour violon de Britten et je crois bien qu'Isabelle Faux sera la musicienne la plus diffusée dans En Piste pour la saison 2023-2024.
Avec François-Xavier Roth peut-être, de temps en temps ils se disputent.
Là, cette année, un disque en solo de musique baroque, un disque en concerto avec la musique de Locatelli, une réédition de musique de chambre autour de Schumann et concerto aussi.
Oui, le disque Peter Hedwösch.
Absolument, j'ai oublié
2023
le disque
aussi, Peter. Dans la saison.
Et aujourd'hui, un nouvel opus consacré à Britten. On peut dire aussi qu'elle passe du répertoire baroque à la musique du XXe siècle, même du XXIe siècle, sans aucun souci. Britten avait donc écrit quelques pièces pour violon et piano, mais surtout, il a écrit un grand concerto aux États-Unis avec pour modèle le concerto à la mémoire d'un ange de Berg, dont il avait entendu la création un peu plus tôt. Et l'œuvre sera créée à Carnegie Hall en 1940, dirigée par John Barbirolli, avec au violon Antonio Brossa, ce musicien espagnol pour lequel la pièce a été écrite. Et le compositeur américain Elliot Carter était dans la salle, figurez-vous. Ah. Et il a dit que cette pièce avait un caractère assez autobiographique. Alors peut-être que Britten y a confié sa douleur de ne pas pouvoir regagner une Europe en guerre. En tout cas, c'est ce que certains musicologues pensent. On va écouter le deuxième mouvement de ce concerto, un scherzo très dynamique. Alors il y a une longue cadence à la fin et ça s'enchaîne avec le troisième mouvement. Donc on va être obligé de revenir au milieu de ce concerto. Mais j'avais quand même envie de vous faire écouter un extrait de cette œuvre de Britten par Isabelle Faust.
Thank you. Thank you.
Le concerto pour violon de Britten, du moins son deuxième mouvement. Ensuite, il y a le troisième que vous entendez ici. Isabelle Faust avec l'orchestre de la radio bavaroise dirigé par Jakub Rusa. Un concerto qui n'est pas très souvent joué.
Non.
Et James Innes disait que c'était parce qu'il y a des pièges techniques extrêmement vicieux, proches de l'injouable. Le violoniste canadien, voilà, qui dit que c'est pas évident pour les interprètes.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
On continue notre exploration de l'intégrale des symphonies de Mendelssohn.
Jour 2.
Donc.
Symphonie numéro 2.
Et voilà. Et c'est une œuvre plutôt originale, déroutante, la symphonie numéro 2. Lobgesang.
Oui.
Qui est le chant de louange. C'est pas le chant du lob.
Renan, mais Rodolphe.
C'est une symphonie cantate composée en 1838 par Mendelssohn. Elle est écrite pour chanteur, orgue, chœur, orchestre, elle compose 3 mouvements et elle est étonnante cette symphonie, c'est un peu toute la pensée de Mendelssohn qui se trouve ici, spirituelle comme musicale. C'est certainement pas la symphonie la plus donnée et c'est donc Paavo Järvi, ça fait partie de ce beau coffret qu'on vous décline toute cette semaine avec la tonale de Zurich.
Thank you.
La deuxième symphonie de Mendelssohn, ici par la Tonhalle de Zurich, sous la direction de Paavo Järvi. Ça fait partie de ce coffret qu'on vous décline toute cette semaine.
Et jour 3, symphonie 3.
Il y a de fortes chances.
D'accord, on sera là. On poursuit l'actualité du disque. L'ensemble Labirinti Harmonici s'est lancé dans l'intégrale à la musique de Francesco Antonio Bonporti. Alors là, on peut dire que c'est vraiment un compositeur qu'on ne connaît pas.
Non.
Italien, mort en 1749, violoniste, prêtre, comme Vivaldi. Il a étudié avec le plus grand violoniste de l'époque.
Ah.
Corelli, évidemment. Et il va majoritairement composer dans sa ville de naissance, à Trente, et il va finir sa vie à Padoue. Il paraît que Bach avait étudié et qu'il appréciait sa musique, et pourtant, aujourd'hui, il est tombé dans l'oubli. Et je vais vous dire pourquoi, Rodolphe. On nous dit que c'est sûrement parce qu'il n'était pas carriériste. C'est triste, ça.
Bah oui,
faut être carriériste pour...
Il n'était pas du bon parti.
Et non, absolument pas.
Bon parti.
Alors, c'est... Qu'est-ce que vous avez ce matin?
Je ne sais pas.
Vous êtes vraiment dans les jeux de mots un petit peu cocasses. Hein. Ce quatrième volume regroupe les sonates pour deux violons de l'opus 6, publié en 1705 et dédié au prince romain Carlo Colonna, qui était aussi le mécène du jeune Handel. 10 sonates, donc construites sur le modèle dominant de l'époque, celui de Corelli.
Thank you.
La sixième sonate de Buonaparte par l'ensemble Labirinti Harmonici. Et en préparant cette émission, Rodolphe m'a dit « Oh, c'est peut-être anecdotique ».
Oui, j'en avais peur.
Eh bien, pas du tout. Je pense que vous l'avez entendu. Souvent, c'est vrai, quand on ne connaît pas les compositeurs, on a parfois de la musique un peu au kilomètre. Et ce n'est pas le cas de ce Buonaparte qui est injustement méconnu.
Ah, je sens que ça va être votre
nouveau... Passion Buonaparte.
Je le crains.
Non, ne le craignez pas, vous aurez au moins de la belle musique.
France Musique.
Alors, pas de disque à gagner avec la question cette semaine, je vous le rappelle, mais plutôt, pour célébrer les 10 ans de notre émission, on partage tous les jours un de nos disques coup de cœur de ces 10 dernières années. Et là, 2014, nous sommes avec la pianiste Yuliana Avdeyeva, cette musicienne qui a remporté le premier prix du concours Chopin en 2010. C'était important puisque c'était la première femme lauréate depuis Martha Argerich en 1965 et son prix avait fait polémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Rodolphe.
Ah bon ?
Oui, le jury et une partie de l'opinion publique, figurez-vous, vous lui avez préféré Lucas Genugias, Ingolf Wunder et Daniil Trifonov qui étaient les deuxième et troisième prix.
C'était une sacrée moisson.
Et voilà, absolument. Et il y a eu beaucoup de critiques assez violentes qui avaient fusé contre elle et je ne sais pas si ça l'a desservie, mais en tout cas depuis elle mène une carrière discrète et je trouve que c'est dommage, je le regrette puisque c'est une musicienne d'une grande virtuosité mais surtout d'une grande sensibilité et d'une belle profondeur. Et son disque Schubert, Prokofiev, Chopin était magnifique, notamment ses préludes de Chopin dans lequel elle faisait chanter le piano avec une richesse de timbres et de nuances. La voici donc chez Chopin.
Thank you.
Vous avez entendu Yulianna Avdeyeva chez Chopin. Et puis notre pochette surprise, on vous offre des disques pour les 10 ans de cette émission. Si vous nous répondez à cette question, quel concours Yulianna Avdeyeva a-t-elle remporté? La réponse:
francemusique.fr, l'émission En Piste.
Et puis en attendant, on se retrouve demain. Merci à Max James qui réalise cette émission avec Thomas Guineguen, Léa Gramusset et Karine David.
À réécouter sur francemusique.fr.